La guerre des boutons de Louis Pergaud. Ceci est une lecture de Christophe pour audiocité.net. Livre 2, De l'argent. Chapitre 9, Le trésor de guerre. L'argent est le nerf de la guerre. Bismarck. Les camarades, le lendemain, en se rendant à l'école, apprirent lambeau par lambeau l'histoire du père Zéphirin. Le village, tout entier en rumeur, commentait joyeusement les diverses phases de cette bachique équipée. Seul le héros principal, ronflant d'un sommeil d'ivrogne, ignorait encore les dégâts commis dans son ménage et les coups de mine dont sa conduite de la veille avait sapé sa réputation. Dans la cour de l'école, le groupe des grands, le braque au centre, se tordait de rire, chacun racontant très haut pour que le maître entendît tout ce qu'il savait des histoires scabreuses qui couraient les rues, et tous insistaient avec force sur les détails salaces et verts, la marmite et le lit. Ceux qui ne disaient rien riaient de toutes leurs dents et leurs yeux orgueilleux luisaient d'un feu vainqueur. Car ils songeaient qu'ils avaient tous, plus ou moins, coopéré à ces équitables et dignes représailles. Ah, ils pouvaient gueuler maintenant, Zéphirin. Quel respect voulez-vous qu'on porte à un type qui se saoule si tellement qu'on le ramasse plein comme une vache dans les fosses à purin de la commune et perd la tramontane à tel point qu'il en vient à considérer son lit comme une pissotière et à prendre sa marmite pour un pot de chambre. Seulement, en sourdine, les plus grands, les guerriers importants, sollicitaient des explications et réclamaient des détails. Bientôt, tous connurent la part que chacun des 8 avait eue dans l'œuvre de vengeance. Ils surent ainsi que le coup des arrosoirs et celui des allumettes était de Camus, Tintin guettant l'arrivée et le signal de Gambette, et que les grosses opérations étaient les fruits de l'imagination de Lebrac. Le vieux s'apercevrait encore plus tard que le vin restant dans sa bouteille avait un goût de pétrole. Il se demanderait quel cochon de chat avait mis le nez dans son bol de concoyotte et pourquoi ce reste de fricot d'oignon était si salé. Oui, et ce n'était pas tout. Qu'il recommença seulement pour voir à m'ennuyer Lebrac et sa troupe, et on lui réserverait quelque chose de mieux encore et de plus soigné. Le chef ruminait, en effet, de lui boucher sa cheminée avec de la marne, de lui démonter sa charrette et d'en faire disparaître les roues, de venir lui râper la tuile tous les soirs pendant 8 jours, sans compter le pillage des fruits de son verger et la mise à sac de son potager. « Ce soir, conclut-il, on sera tranquille. Il n'osera pas sortir. D'abord, il est tout beugné d'avoir piqué des têtes dans les rigoles. Et puis, il a assez de travail chez lui. Quand on a de la besogne chez soi, on ne fourre pas le nez dans celle des autres. Est-ce qu'on va se remettre encore à poil ? Questionna Boulot. Mais, puisque nous ne serons pas embêtés, fit Lebrac. Bien sûr ! C'est que, hasardèrent plusieurs voix. Mon vieux, tu sais, il ne faisait guère chaud hier au soir. On en était tout rengremésillé avant la charge. J'avais la peau comme une poule déplumée, moi, déclara Tintin. Et le zizi qui fondait, si tellement qu'il n'y en avait plus. Et puis les Vélerans ne veulent pas venir ce soir. Hier, ils ont trop eu le trac. Ils ne savaient pas ce qui leur arrivait dessus. Ils ont cru qu'on tombait de la lune. C'était pas ce qui manquait, les lunes, remarqua la crique. Sûrement que ce soir, ils vont muser à ce qu'ils pourraient bien trouver, et on en serait pour se moisir là-bas, sur place. Si Bédouin ne vient pas ce soir, il peut venir quelqu'un d'autre. Il a dû blaguer chez Fricot, et on risque bien encore de se faire piger. Tout le monde n'est pas aussi décatique le garde. Et puis, nom de Dieu, non, je ne me bats plus à poil, articula Gueruyas, levant carrément l'étendard de la révolte, ou tout au moins de la protestation irréductible. Chose grave, il fut appuyé par de très nombreux camarades qui s'en étaient toujours remis docilement aux décisions de Lebrac. La raison de ce désaccord, c'est que la veille, au cours de la charge, en plus du froid ressenti, il s'était en outre qui planté une épine dans le pied, qui écorché les orteils sur des chardons, ou blessé les talons en marchant sur des cailloux. Bientôt, toute l'armée bancalerait. Ce serait du propre. Non, vraiment, ça n'était pas un métier. Lebrac, seul ou presque, de son opinion, dut convenir que le moyen qu'il avait préconisé offrait en effet de notoires inconvénients et qu'il serait bon d'en trouver un autre. « Mais lequel ? Trouvez-en, puisque vous êtes si malin !» reprit-il, vexé au fond du peu de succès enduré qu'avait eu son entreprise. On chercha. « On pourrait peut-être se battre en manche de chemise, » proposa la Crique. « Les blouses, au moins, n'auraient pas de mal, et avec des ficelles pour les souliers et des épingles pour le pantalon, on pourrait rentrer. Pour te faire punir le lendemain par le père Simon qui te dira que tu as une tenue débraillée et qui en préviendra tes vieux, hein? Qu'est-ce qui te remettra des boutons à ta chemise et à ton tricot et tes bretelles? Non, c'est pas un moyen, ça. Tout ou rien, » trancha Lebrac. « Vous ne voulez pas de rien? Il faut tout garder. » « Ah !» fit la Crique. « Si on avait quelqu'un pour nous recoudre des boutons et refaire les boutonnières, et aussi pour te racheter des cordons et des jarretières et des bretelles, hein, pourquoi pas pour te faire pisser pendant que tu y es et puis torcher le jacot à monsieur quand il a fini de se vider le boyau gras, hein ?»« Ce qu'il faut, je vous le dis encore, moi, na, puisque vous trouvez rien, » reprit Lebrac. Ce qu'il nous faut, c'est des sous.
Des sous?
Oui, bien sûr, parfaitement, des sous. Avec des sous, on peut acheter des boutons de toutes sortes, du fil, des aiguilles, des agrafes, des bretelles, des cordons de souliers, du lastique, tout, je vous dis tout.
C'est bien vrai, ça, tout de même. Mais, pour acheter ce fourbi que tu dis, il faudrait qu'on nous en donne beaucoup des sous. Peut-être bien 100 sous. Merde, une roue de brouette, jamais on aura ça. Pour qu'on nous les donne d'un seul coup, sûrement non. Il n'y a pas à y compter, mais écoutez-moi bien, insista Lebrac. Il y aurait un moyen tout de même d'avoir presque tout ce qu'il nous faut. Un moyen que tu... Écoute donc, c'est pas tous les jours qu'on est fait prisonnier. Et puis, nous en rechipperons des petits migues la lune, et alors?
Alors?
Alors nous les garderons, leurs boutons, leurs agrafes, leurs bretelles, au peigne-cul de Véleran. Au lieu de couper les cordons, on les mettra de côté, pour avoir une petite réserve.
Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir pris, interrompit la Crique, qui, bien que jeune, avait déjà des lettres.
Si nous voulons être sûrs d'avoir des boutons, et nous pouvons en avoir besoin d'un jour à l'autre, le meilleur est d'en acheter.
T'adhérons, ironisa Boulot.
J'en ai 7 dans une tirelire en forme de guernouille, mais il n'y a pas à compter dessus. La guernouille les dégobillera pas de sitôt. Ma mère sait combien qu'il y en a. Elle garde le fourbi dans le buffet. Elle dit qu'elle veut m'acheter un chapeau à Pâques ou à la Trinité. Et si j'en faisais couler un, je recevrais une belle dinguée.
C'est toujours comme ça, bon Dieu, ragea Tintin. Quand on nous donne des sous, c'est jamais pour nous. Faut absolument que les vieux posent le grappin dessus. Ils disent qu'ils font de grands sacrifices pour nous élever,
qu'ils en ont bien besoin pour nous acheter des chemises, des habits, des sabots, je sais-y quoi, moi. Mais je m'en fous de leur nippe. Je voudrais qu'on me les donne, mes ronds, pour que je puisse acheter quelque chose d'utile. Ce que je voudrais, du chocolat, des billes, du lastique pour une fronde, voilà. Mais il n'y a vraiment que ceux qu'on accroche par-ci, par-là, qui sont bien à nous, et encore, faut pas qu'ils traînent longtemps dans nos poches. »
Un coup de sifflet interrompit la discussion, et les écoliers se mirent en rang pour entrer en classe.
« Tu sais, » confia Grangibus à Lebrac, « moi, j'ai deux ronds qui sont à moi, et que personne ne sait. C'est Théodule d'Ouvence qui est venu au moulin, et qui me les a donnés parce que j'ai tenu son cheval. C'est un chic type, Théodule. Il donne toujours quelque chose. Tu sais bien, Théodule, le républicain, celui qui pleure quand il est saoul.
Taisez-vous, Adonis !»
Grangibus était prénommé Adonis, fit le père Simon.
« Ou je vous punis !»«
Merde !» fit Grangibus entre ses dents.
« Qu'est-ce que vous marmottez ?»
reprit l'autre qui avait surpris le tremblement des lèvres.
« On verra comme vous bavarderez tout à l'heure quand je vous interrogerai sur vos devoirs envers l'État. »«
Dis rien !» souffla le braque. « J'ai une idée !»
Et l'on entra. Dès que le braque fut installé à sa place, ses cahiers et ses livres devant lui, il commença par arracher proprement une feuille double du milieu de son cahier de brouillon. Il la partagea ensuite, par pliages successifs, en 32 morceaux égaux sur lesquels il traça, il condensa cette capitale interrogation « As-tu un sou ?» Puis il mit sur chacun des 10 morceaux, dûment pliés, les noms de 32 de ses camarades et, poussant d'un seul coup de coude brusque Tintin, il lui glissa subrepticement et l'une après l'autre les 32 missives en les accompagnant de la phrase sacramentelle « Passe ça à ton voisin !» Ensuite, sur une grande feuille, il réinscrivit ses 32 noms et, pendant que le maître interrogeait, lui aussi, du regard, demandait successivement à chacun de ses correspondants la réponse à sa question, pointant au fur et à mesure d'une croix ceux qui disaient oui et d'un trait horizontal ceux qui disaient non, il compta ses croix. Il y en avait 27. « Il y a du bon, » pensa-t-il. Et il se plongea dans de profondes réflexions et de longs calculs pour établir un plan dont son cerveau, depuis quelques heures, ébauchait les grandes lignes. À la récréation, il n'eut point besoin de convoquer ses guerriers. Tous vinrent d'eux-mêmes immédiatement se placer en cercle autour de lui, dans leur coin, derrière les cabinets, tandis que les tout-petits déjà complices, mais qui n'avaient pas voix délibérative, formaient en jouant un rempart protecteur devant eux. « Voilà !» exposa le chef. « Il y en a déjà 27 qui peuvent payer, et j'ai pas pu envoyer de lettres à tous. Nous sommes 45. Quels sont ceux à qui je n'ai pas écrit et qui ont aussi un sou à eux? Levez la main !» 8 mains sur 13 se dressèrent.
« Ça fait 27 et 8. Voyons, 27 et 8, 28, 29, 30, » fit-il en comptant sur ses doigts.
« 35, va !» coupa la crique.
« 35 ? T'es bien sûr ? Ça fait donc 35 sous ? 35 sous ? C'est pas 100 sous, en effet, mais c'est quelque chose. Eh bien, voici ce que je propose. On est en République. On est tous égaux, tous camarades, tous frères. Liberté, égalité, fraternité. On doit tous s'aider, hein, et faire en sorte que ça marche bien. Alors, on va voter comme qui dirait l'impôt, oui, Un impôt pour faire une bourse, une caisse, une cagnotte avec quoi on achètera notre trésor de guerre. Comme on est tous égaux, chacun paiera une cotisation égale, et tous auront droit, en cas de malheur, à être recousus et rarrangés, pour ne pas être zonzenés en rentrant chez eux. Il y a la Marie de chez Tintin qui a dit qu'elle viendrait recoudre le fourbi de ceux qui seraient pris. Comme ça, vous voyez, on pourra y aller carrément. Si on est chauffé, tant pis. On se laisse faire sans rien dire, et au bout d'une demi-heure, on rentre propre, reboutonné, retapé, requinqué. Et qui sait qu'elle est con, c'est les Bellerans. Ça, c'est chouette. Mais des sous, on en a guère, tu sais, le braque. Ah, oh, mais sacré nom de Dieu, est-ce que vous ne pouvez pas faire un petit sacrifice à la patrie? Seriez-vous des traîtres, par hasard? Je propose, moi, pour commencer et avoir tout de suite quelque chose, qu'on donne dès demain un sou par mois. Plus tard, si on est plus riche, si on fait des prisonniers, on ne mettra plus qu'un sou tous les deux mois. Mince, mon vieux, comme t'y vas? T'es donc millionnaire, toi, un sou par mois. C'est des sommes, ça. Jamais je pourrais trouver un sou à donner tous les mois. Si chacun ne peut pas se dévouer un tout petit peu, c'est pas la peine de faire la guerre. Vaut mieux avouer qu'on a de la purée de pommes de terre dans les veines et pas du sang rouge. Du sang français, nom de Dieu. Êtes-vous des alboches? Oui ou merde? Je comprends pas qu'on hésite à donner ce qu'on a pour assurer la victoire. Moi, je donnerai même 2 ronds quand j'en aurai. Alors, c'est entendu, on va voter.
Par 35 voix contre 10, la proposition de Lebrac fut adoptée. Votèrent contre, naturellement, les 10 qui n'avaient pas en leur possession le sou exigible.
« Pour ce qui est de votre affaire, » trancha Lebrac, « j'y ai pensé aussi. On réglera ça à 4 heures à la carrière à Pepio, à moins qu'on aille à celle où ce qu'on était hier pour se déshabiller. Oui, on y sera mieux et plus tranquille. On mettra des sentinelles pour ne pas être surpris au cas où, par hasard, les Vélerans viendraient quand même. Mais je ne crois pas. Allez, ça va bien. Ce soir, tout sera réglé. »
Chapitre 10. Faute d'argent, cette douleur non pareille. Toutefois, il avoua 63 manières d'en trouver toujours à son besoin, dont la plus honorable et la plus commune, estoie par façon de larcin furtivement fait. Rabelais, livre 2, chapitre 16. Cela pinçait sec ce soir-là. Il faisait un temps clair de nouvelle lune. La fine corne d'argent pâle, translucide encore au dernier rayon du soleil, prédisait une de ces nuits brutales et franches qui vous rasent les feuilles, les dernières feuilles, claquant sur leurs branches désolées comme les grelots fêlés des cavales du vent. Boulot frileux avait rabattu sur ses oreilles son béret bleu. Tintin avait baissé les oreilles de sa casquette. Les autres aussi s'ingéniaient à lutter contre les épines de la bise. Seul, Lebrac, nu-tête, tanné encore du soleil d'été, la blouse ouverte, faisait fi de ses froidures de rien du tout, comme il disait. Les premiers arrivés à la carrière attendirent les retardataires, et le chef chargea Tétas, Tigibus et Guignard d'aller un moment surveiller la lisière ennemie. Il conféra à Tétas les pouvoirs de chef et lui dit « Dedans un quart d'heure, quand on sifflera, si t'as rien vu, tu monteras sur le chêne à Camus et si tu ne vois rien encore, c'est qu'ils ne viendront sûrement pas. Alors vous reviendrez nous rejoindre au camp. » Les autres dociles acquiescèrent et pendant qu'ils allaient prendre leur quart de garde, le reste de la colonne monta au repère de Camus, où l'on s'était déshabillé la veille. « Tu vois bien, vieux, » constata Boulot, « qu'on n'aurait pas pu se déshabiller aujourd'hui. »« C'est bon, fit Lobrac. Du moment qu'on a décidé de faire autre chose, il n'y a pas à revenir sur ce qui est passé. On était vraiment bien dans la cachette à Camus. Du côté de Velleran, au couchant et au midi, et du côté du bas, la carrière à ciel ouvert formait un rempart naturel qui mettait à l'abri des vents de pluie et de neige. Des autres côtés, deux grands arbres laissaient entre eux et les buissons quelques passages étroits, arrêtaient les vents du nord et d'est, pas chaud pour un liard ce soir-là. « Asseyons-nous, » proposa Lebrac. Chacun choisit son siège. Les grosses pierres plates s'offraient d'elles-mêmes. Il n'y avait qu'à prendre. Chacun trouva la sienne et regarda le chef. « C'est donc entendu, » articula ce dernier, rappelant brièvement le vote du matin, « qu'on va se cotiser pour avoir un trésor de guerre. » Les 10 panés protestèrent unanimement. Gueroyas, ainsi nommé parce qu'à côté du sien le regard de Guignard était d'un Adonis, et que ses gros yeux ronds lui sortaient effroyablement de la tête, prit la parole au nom des Sans-le-Sou. C'était le fils de pauvres bougres de paysans qui peinaient du 1er janvier à la Saint-Sylvestre pour nouer les deux bouts et qui, naturellement, n'offraient pas souvent à leur rejeton de l'argent de poche pour ses menus plaisirs. « Lebrac, dit-il, c'est pas bien. Tu fais honte aux pauvres. T'as dit qu'on était tous égaux. Et tu sais bien que ça n'est pas vrai et que moi, que Zozo, que Batty et les autres, nous ne pourrons jamais avoir un radis. Je sais bien que t'es gentil avec nous. Que quand t'achètes des bonbons, tu nous en donnes, que quand t'achètes des bonbons, tu nous en donnes un de temps en temps, et que tu nous laisses des fois lécher tes raies de chocolat et tes bouts de réglisse. Mais tu sais bien que si par malheur on nous donne un rond, le père ou la mère le prennent aussitôt pour acheter des fourbilles dont on ne voit jamais la couleur. On te l'a déjà dit ce matin, y a pas moyen qu'on paye. Alors on est des galeux, c'est pas une république ça, na. Je ne peux pas me soumettre à la décision. Nous non plus, firent les 9 autres. J'ai dit qu'on arrangerait ça, tonna le général. Et on l'arrangera, na. Ou bien je ne suis plus Lebrac, ni chef, ni rien, nom de Dieu. Écoutez-moi, tas d'andouilles, puisque vous ne savez pas vous dégrouiller tout seul. Croyez-vous qu'on m'en donne à moi des ronds? Et que le vieux ne me les chipe pas, lui aussi, quand mon parrain ou ma marraine ou n'importe qui vient boire un litre à la maison et me glisse un petit ou un gros sou? Ah, wish, si j'ai pas le temps de me trotter assez tôt et dire que j'ai acheté des billes ou du chocolat avec le sou qu'on m'a donné, on a bientôt fait de me le raser. Et quand je dis que j'ai acheté des billes, on me les fait montrer. Parce que si c'était pas vrai, on me le ferait renaquer le sou. Et quand on les a vus, pan, une paire de gifles, pour m'apprendre à dépenser mal à propos des sous qu'on a tant de mots à gagner. Quand je dis que j'ai acheté des bonbons, j'ai pas besoin de les montrer, on me fout la torgnole avant, en disant que je suis un dépensier, un gourmand, un goulu, un goinfre, et je ne sais quoi encore. Voilà. Eh ben, il faut savoir se débrouiller dans la vie du monde. Et je vais vous dire comment qu'il faut s'y prendre. Je parle pas des commissions que tout le monde peut réussir à faire pour la servante du curé ou la femme du père Simon. Ils sont si rapias qu'ils ne se fendent pas souvent. Je parle pas non plus des sous qu'on peut ramasser au baptême et au mariage. C'est trop rare. Et il n'y a pas à compter dessus. Mais voici ce que tout le monde peut faire. Tous les mois, le pâtier s'amène sur la levée de granges de fricots et les femmes lui portent leurs vieux chiffons et leurs peaux de lapin. Moi, je lui donne des os et de la ferraille. Les gibus aussi. Pas vrai, grand gibus? Oui, oui. Contre ça, il nous donne des images, des plumes, d'un petit tonneau, des décalcomanies ou bien un sou ou deux. Ça dépend de ce qu'on a. Mais il n'aime pas donner des ronds.
C'est un sale grippe-sous qui nous colle toujours des saloperies, qui ne décalque pas contre des bons gros os de jambon et de la belle ferraille. Et puis ces décalcomanies, ça ne sert à rien. Il n'y a qu'à lui dire carrément, selon ce qu'on porte. Je veux un rond ou deux, même trois, s'il y a beaucoup de fourbis. S'il dit non, on n'a qu'à lui répondre. Mon vieux, t'auras Potzebi, et remporter son truc. Il veut bien vous rappeler ce sale juif-là. Allez. Je sais bien que des os, c'est de la ferraille. Il n'y en a pas des tas, mais le meilleur, c'est de chiper des pattes blanches. Elles valent plus cher que les autres. Et lui vendre le prix au poids. C'est pas commode chez nous, objecta Gurillas. La mère a un grand sac sur le buffet et elle fourre tout dedans. T'as qu'à tomber sur son sac et en faire un petit avec. C'est pas tout. Vous avez des poules. Tout le monde a des poules. Eh bien, un jour, on chipe un œuf dans le nid. Un autre jour, un autre. Deux jours après, un troisième. On y va le matin avant que les poules aient toutes pondu. Vous cachez bien vos œufs dans un coin de la grange. Et quand vous avez votre douzaine ou votre demi-douzaine, vous prenez bien gentiment un panier et, tout comme si on vous envoyait en commission, vous les portez à la mère Maillot. Elle les paye quelquefois, en hiver, jusqu'à 24 sous la douzaine. Avec une demi, il y en a pour toute une année d'impôts. C'est pas possible chez nous, affirma Zozo. Ma vieille est si tellement à cheval sur ses gélines que tous les soirs et tous les matins, elle va leur tâter au cul pour sentir si elles ont l'œuf. Elle sait toujours d'avance combien elle en aura le soir. S'il en manquait un, ça ferait un beau raffut dans la cambuse. Il y a encore un moyen qu'est le meilleur. Je vous le recommande à Tertou. Voilà. C'est quand le père prend la cuite. Je suis content, moi, quand je vois qu'il graisse ses brodequins pour aller à la foire à Versailles ou à Beaume. Il dîne bien là-bas avec les Montagnons ou les Pays-Bas. Il boit sec, des apéritifs, des petits verres, du vin bouché. En revenant, il s'arrête avec les autres à tous les bouchons et avant de rentrer, il prend encore l'absinthe chez Fricot. Ma mère va le chercher. Elle est pas contente, elle grogne, il s'engueule chaque fois, puis il rentre et elle lui demande combien il a dépensé. Lui, il l'envoie promener en disant qu'il est le maître et que ça ne la regarde pas, et puis il se couche et fout ses habits sous une chaise. Alors moi, pendant que la mère va fermer les portes et clairer les bêtes, je fouille les poches et la bourse. Il ne sait jamais au juste ce qu'il y a dedans. Alors, c'est selon. Je prends 2 sous, 3 sous, 4 sous. Une fois même, j'ai chipé 10 sous. Mais c'est trop et j'en reprendrai jamais autant parce que le vieux s'en est aperçu. Alors, il t'a foutu la peignée ? Émit Tintin. Penses-tu ? C'est la mère qui a reçu la danse. Il a cru que c'était elle qui lui avait refait sa pièce et il lui a passé quelque chose comme engueulade. Ça, c'est vraiment un bon truc, convint Boulot. Qu'en dis-tu, Batty ?
Je dis, moi, que ça ne me servira à rien du tout, le truc à le braque, parce que mon père ne se saoule jamais.
Jamais ! S'exclama en chœur toute la bande étonnée.
Jamais, reprit Batty d'un air navré.
Ça, fit le braque. C'est un malheur, mon vieux.
Oui, un grand malheur, un vrai malheur.
Et on n'y peut rien.
Alors t'as qu'à rogner quand t'iras en commission.
Je m'explique. Quand tu as une pièce à changer, tu cales un sou et tu dis que tu l'as perdu. Ça te coûtera une gifle ou deux, mais on n'a rien pour rien en ce bas monde. Et puis, on gueule avant que les vieux ne tapent. On gueule tant qu'on peut et ils n'osent pas taper si fort. Quand c'est pas une pièce, par exemple, quand c'est de la chicorée que tu vas acheter, il y a des paquets à 4 sous et à 5 sous
Eh bien, si t'as 5 sous, tu prends un paquet de 4 sous et tu dis que ça a augmenté. Si on t'envoie acheter pour 2 sous de moutarde, tu n'en prends que pour un rond et tu racontes qu'on t'a donné que ça. Mon vieux, on ne risque pas grand-chose. La mère dit que l'épicier est un filou et une fripouille. Et ça la passe comme ça. Et puis, enfin, à l'impossible, personne n'est tenu. Quand vous aurez trouvé des sous, vous payerez. Si vous ne pouvez pas, tant pis. En attendant, on s'arrangera autrement. Nous avons besoin de sous pour acheter du fourbi. Eh bien, quand vous trouverez un bouton, une agrafe, un cordon, un élastique, de la ficelle à rafler, foutez-les dedans votre poche et aboulez-les ici pour grossir le trésor de guerre. On estimera ce que cela vaut, en tenant compte que c'est du vieux et pas du neuf. Celui qui gardera le trésor tiendra un calepin sur lequel il marquera les recettes et les dépenses, mais ça serait bien mieux si chacun arrivait à donner un sou. Peut-être que plus tard, on aurait des économies, une petite cagnotte, quoi, et qu'on pourrait se payer une petite fête après une victoire. Oh, ce serait épatant, ça, approuva Tintin. Des pains d'épices, du chocolat, des sardines. Trouvez d'abord les ronds, hein, repartit le général. Voyons, il faut être bien nouille après tout ce que je viens de vous dire pour ne pas arriver à dégoter un radis tous les mois. C'est vrai, approuva le cœur des possédants. Les purotins, enflammés par les révélations de Lebrac, acquiescèrent cette fois à la proposition d'impôt et jurèrent que pour le mois prochain, ils remueraient ciel et terre pour payer leurs cotisations. Pour le mois courant, ils s'acquitteraient en nature et remettraient tout ce qu'ils pourraient accrocher entre les mains du trésorier. Mais qui serait trésorier? Lebrac et Camus, en qualité de chef et de sous-chef, ne pouvaient remplir cet emploi. Gambette, manquant souvent l'école, ne pouvait lui non plus occuper ce poste. D'ailleurs, ses qualités de lièvre agile le rendaient indispensable comme courrier en cas de malheur. Lebrac proposa à Lacrique de se charger de l'affaire. Lacrique était bon calculateur. Il écrivait vite et bien. Il était tout désigné pour cette situation de confiance et ce métier difficile. « Je ne peux pas, » déclina Lacrique. « Voyons, mettez-vous à ma place. Je suis l'écolier le plus près du bureau du maître. À tout moment, il voit ce que je fais. Quand sait-il alors que je pourrais tenir mes comptes? C'est pas possible. Il faut que le trésorier soit dans les bancs du fond. C'est Tintin qui doit l'être. Tintin, fit Lebrac. Oui, après tout, mon vieux. C'est toi qui dois prendre ça, puisque c'est la Marie qui viendra recoudre les boutons de ceux qui auront été faits prisonniers. Oui, il n'y a que toi. Oui, mais si je suis pris, moi, par les Vélerans, tout le trésor sera foutu.
Alors tu ne te battras pas. Tu resteras en arrière et tu regarderas. Faut bien savoir des fois faire des sacrifices, ma vieille branche.
Oui, oui, Tintin trésorier! Tintin fut élu par acclamation, et comme tout était réglé ou à peu près, on alla voir au gros buisson ce que devenaient les 3 sentinelles que, dans la chaleur de la discussion, on avait oublié de rappeler. Tétas n'avait rien vu et il blaguait en fumant des tiges de clématite. On leur fit part de la décision prise, ils approuvèrent, et il fut convenu que, dès le lendemain, tout le monde apporterait à Tintin sa cotisation, en argent ceux qui pourraient, et en nature les autres.